Déjà ce matin, je vais parler un peu là-dessus. J'ai médité sur un passage, le passage de Genèse 22. Et jusqu'à quel point j'espère vraiment pouvoir ordonner ce que Dieu m'a communiqué. Et j'espère vraiment que cela sera une provision pour chacun de nous. Je vais vous demander de tourner avec moi dans Genèse chapitre 22. Nous allons lire du verset 1 au verset 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, Mon père, il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levaient et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Voilà l'histoire, cette histoire d'Abraham. Et on va voir juste quatre choses, plutôt quatre personnages. Dieu, Abraham, Isaac et le peuple. Parce que la Genèse est adressée au peuple d'Israël qui quitte l'Égypte pour aller posséder le pays promis. Et c'est à eux que Dieu adresse ce message dans un but précis. Mais la première personne qui nous intéresse, parce que cette histoire, avant de parler de la foi d'Abraham, avant de parler de la foi, du courage d'Abraham, il parle d'abord de Dieu. Et de Dieu qui désire nous amener sur un chemin où il seul, lui seul, aura l'exclusivité dans notre vie. Cette histoire est à propos de Dieu qui veut nous amener sur un chemin où lui seul aura l'exclusivité dans notre vie. Et ce qui est intéressant avec l'histoire d'Abraham, c'est que Dieu a appelé Abraham seul quand il était dans le pays de Ur. Mais Abraham n'est pas parti seul. Il est parti avec son père et son neveu Lot. Et Abraham a dû attendre à Charan la mort de son père pour continuer le voyage. Et ensuite, quand ils sont arrivés dans le pays promis, c'est des circonstances qui ont amené Abraham et Lot à se séparer. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Abraham n'a jamais choisi volontairement de prioriser la foi à sa famille. Et cette histoire, à ce moment-là, c'est Dieu qui vient rencontrer Abraham dans ce domaine précis de sa vie. Ce qui m'a encouragé là-dedans, c'est que, vous savez, tous on a des problèmes dans nos vies. Mais des fois, Dieu laisse perdurer les problèmes. Parce que pour le moment, c'est pas encore le temps. Nous n'avons pas encore la capacité de gérer comment il va régler le problème. Mais viendra un temps où quand le problème est important, là, Dieu devra répondre, Dieu devra régler le problème. Et c'est ce qui se passe ici. Et c'est extraordinaire de voir que les choses qu'on voit dans la vie des autres qui n'est pas la gloire de Dieu, vous savez, ou qu'on voit dans notre vie qui n'est pas la gloire de Dieu, on peut s'attendre à une chose, c'est que Dieu sait certainement où il va nous coincer. Vous savez, comme Balaam sur son ânesse qui avance, et à un moment donné, il n'y avait plus la possibilité d'avancer. Parce que là, il faut descendre et régler le problème, parce que Dieu est là. Et c'est ce que Dieu fait ici avec Abraham. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment Abraham a traversé cette épreuve, je dirais, avec une foi impeccable. Je dis, Dieu te dit, prends ton fils, ton unique, offre-le en sacrifice. La pensée que j'ai eue, je dis, sur sa couche cette nuit-là, quelle était sa méditation, Abraham? Sur sa couche cette nuit-là, quand il pensait à ce que Dieu lui avait dit, sa femme n'était pas au courant, les serviteurs n'étaient pas au courant, son fils n'était pas au courant. Mais quand il était sur son lit cette nuit-là, quelle était sa méditation? Vous savez, je pense que sur cette nuit-là, Abraham, dans son cœur, comptait les bienfaits de Dieu. Abraham, dans son cœur, comptait la fidélité de Dieu. Parce que Abraham, mes amis, a laissé Dieu préparer son cœur. Vous savez, le texte commence en disant, après ces choses-là, le chapitre 21, ou après tout ce qui a précédé, où Abraham a pu avoir l'opportunité de voir Dieu être vivant dans sa vie, où il a pu avoir l'opportunité de voir Dieu prendre soin de lui. Et sur son lit, cette nuit-là, il a compté les bienfaits de Dieu. Pourquoi? Regardez ce qu'il... Dans Hébreux 11 nous dit ceci, Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Il n'y avait jamais eu de résurrection à cette époque-là. C'est un mot qu'on ne connaissait pas. Mais Abraham, dans son cœur, tu l'as dit, je vais faire un bilan de ma vie, de ma marche avec Dieu. Il m'a appelé, il a été fidèle. Lorsque j'ai menti, il a toujours été là. Il m'a conduit, il m'a fait des promesses, il a fait une alliance avec moi. Et là, il me demande de tuer mon fils. Et Abraham est arrivé à cette conclusion. Dieu peut ressusciter mon fils. Et ce qui m'a béni là-dedans, c'est que cette conclusion de voir la résurrection à une époque où il n'y avait pas de résurrection, Abraham l'a eu. Pourquoi? Parce qu'il a pris Dieu au mot. Il a pris Dieu au mot. Dieu a parlé et je crois. Et lorsque nous prenons Dieu au mot, nous pouvons avoir une confiance totale en Dieu dans les différentes situations dans lesquelles il nous amène. Prendre Dieu au mot, a amené Abraham, je disais, à vivre hors de son temps. Parce que la résurrection, c'est des années après. Et c'est les évangiles, c'est nous aujourd'hui qui croyons qu'un jour nous allons ressusciter. Mais Abraham n'a jamais vu ça. Mais comment il a pu arriver à cette conclusion? Parce qu'il a pris Dieu au mot. Mes amis, il n'y a rien de plus beau que lorsque le croyant accepte de prendre Dieu au mot. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Il n'y a rien qui nous amène dans une dimension plus grande dans notre marche avec Dieu lorsqu'on accepte de prendre Dieu au mot. Et comment nous pouvons prendre Dieu au mot? En laissant le Seigneur préparer notre cœur. En laissant le Seigneur préparer notre cœur. Comment le Seigneur prépare mon cœur? Comment plutôt puis-je laisser le Seigneur préparer mon cœur? En le suivant. Seigneur, tu as dit, je marche. Et parce que je suis Dieu, sème sa vie dans mon cœur. Parce que je suis Dieu, sème sa pensée dans mon cœur. Parce que je suis Dieu, sème sa vision dans mon cœur. Et quand vient le moment, je peux sur mon lit et dire, ouais, Dieu peut même ressusciter les morts. Où est-ce que tu as entendu parler de résurrection? Je ne sais pas. Je suis juste arrivé à cette conclusion parce que j'ai pris Dieu au mot. J'ai pris Dieu au mot. Soyons des croyants qui prenons Dieu au mot. Et lorsqu'on prend Dieu au mot, oui, on laisse à Dieu le soin d'avoir l'exclusivité dans notre vie. On laisse le soin à Dieu d'avoir l'exclusivité dans notre vie. Oh, pardon, j'ai pas bien. Et le deuxième, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais continuer. La deuxième personne, c'est Isaac. Et sur Isaac, Peut-être mon interprétation n'est pas correcte, donc je m'en fais pas parce que on a des pasteurs devant nous. Il y a Pasteur Michel, donc du coup, quand Pasteur Michel là, tu sais que tu n'as rien à craindre. Si c'est faux, bah, il va corriger, donc il n'y a pas de souci. Mais je vais aller. Par contre, le principe est vrai. Peut-être l'interprétation n'est pas correcte, mais le principe est vrai. Isaac, c'est un personnage assez extraordinaire. Parce que, et oui, avant même de parler d'Isaac, vous savez, parce que Abraham a pris Dieu au mot, d'accord? Et qu'il a, cette nuit-là, pensé à juste une chose, non, je n'aurai pas peur. La peur ne va pas remplir mon cœur parce que Dieu est capable de ressusciter mon fils. Cela fait quoi? Que lorsque son fils lui a demandé, mon père, il est où le sacrifice? Abraham n'était pas. Vous savez, quand on est gêné parce qu'on ne sait pas quelle réponse donner, Abraham était juste cool. Dieu se pourvoira parce qu'il est capable de le faire. Et quand on voit Isaac, c'est vrai qu'on est émerveillé par sa douceur, d'accord, qu'il laisse son père l'attacher et le mettre sur ce bois, d'accord, et laisser faire. Mais je me mets à la place d'Isaac. Quelle serait ma relation avec Dieu après avoir vu mon père prendre le couteau pour m'égorger? Parce que après ma naissance, quand j'ai commencé à comprendre, mon père et ma mère me disaient, Isaac, tu es le fils de la promesse. On t'a attendu pendant 25 ans. Et là, je vois mon père qui prend un couteau pour m'ôter la vie. Quelle serait ma relation après cela avec mon père ou avec Dieu? Vous savez, et il y a ce passage où beaucoup, les commentateurs disent beaucoup de choses là-dessus, mais pour moi, je pense que ça va bien avec le personnage d'Isaac. C'est dans Genèse 31, c'est Jacob qui parle d'Isaac, Genèse 31, verset 42, où il est dit ceci, en parlant à Laban, dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac. Et littéralement, c'est la terreur d'Isaac. Dieu est décrit dans ce verset comme étant la terreur d'Isaac. Et on le voit aussi au verset 53, où Dieu est décrit comme étant la terreur d'Isaac. Donc on a un jeune homme qui est mis sur cet autel, son père prêt à l'égorger. On a ce passage où Dieu est présenté comme la terreur d'Isaac. Et il y a encore une troisième chose. Après cette histoire où Dieu, après, a montré à Abraham, voilà l'agneau, il y a un bélier dans le buisson. Prends-le, offre-le en sacrifice à la place de ton fils. Vous savez, j'avais envie de voir le père et le fils descendant la montagne en chantant Dieu, en louant Dieu. Et Isaac qui dit à son père, « Père, waouh, mais ta foi, et tu allais vraiment le faire, mais comment Dieu, tu as cru en Dieu ?» Mais nous voyons que Abraham est descendu seul. Le verset 19, « Abraham est descendu seul. » Il est où Isaac? Et c'est là où peut-être mon interprétation n'est pas correcte. Je pense qu'Isaac a été quand même un peu traumatisé par cette situation. Je pense qu'il y a un traumatisme parce qu'il est comme vous et moi. Et voir mon père prendre le couteau pour m'ôter la vie, je ne sais pas ce que ça produit dans ma vie. Maintenant, on laisse de côté l'interprétation. Maintenant, l'application est la suivante. Je pense qu'il est important dans notre vie de ne pas laisser les moyens que Dieu utilise pour avoir l'exclusivité dans notre vie, nous traumatiser ou endommager notre âme. Ne laissons pas les moyens que Dieu utilise pour avoir l'exclusivité dans notre vie, nous endommager notre âme. Un exemple précis, qu'est-ce que le découragement finalement? Si ce n'est que j'ai laissé le moyen que Dieu veut utiliser pour avoir l'exclusivité dans ma vie, endommager mon âme. Et donc, où Dieu n'est plus digne de confiance. Mon âme est traumatisée parce que je ne pense pas que Dieu pouvait faire ça. Mes amis, on n'a pas idée jusqu'où Dieu peut aller pour avoir l'exclusivité dans notre vie. Et Isaac a vu jusqu'où Dieu pouvait aller pour avoir toute la place dans la vie de son père. C'est une épreuve, mais sur le champ, lui, il ne savait pas que c'était une épreuve. Il a vu son père prendre le couteau parce que Dieu lui a dit, Abraham, tu choisis ta famille ou moi, ton fils unique ou moi. Il a vu jusqu'où Dieu peut aller. Et je méditais à ça aujourd'hui, je me dis, waouh, Dieu peut aller loin. Dieu peut aller loin parce qu'il veut l'exclusivité dans notre vie. Dieu peut aller loin parce qu'il veut avoir l'exclusivité dans notre vie. Mais ce qui doit garder notre cœur, c'est que les moyens que Dieu utilise pour avoir l'exclusivité dans notre vie ne doivent jamais endommager notre âme. Vous savez, combien de chrétiens ont été endommagés et qui aujourd'hui sont dans des églises, écoutent, mais ne me parlez pas de don de soi, ne me parlez pas de mission, ne me parlez pas d'aimer, ne me parlez pas de vivre la vie chrétienne. J'ai eu ma dose. Quelque part, le moyen, les voies que Dieu a voulu utiliser, parce que Dieu veut avoir l'exclusivité dans notre vie. Dieu veut avoir l'exclusivité dans notre vie. Il est Seigneur et il veut être Seigneur aussi dans ma vie. Il veut être Seigneur aussi dans ma vie. Et Dieu peut aller loin. Et en méditant là-dessus, je dis, Seigneur, juste garde-moi déjà de prendre les bonnes décisions. Mais si un jour tu vas loin, que je ne laisse pas cela endommager mon âme, que je puisse continuer de croire en toi. Parce que quand on voit la vie d'Isaac après, quels sont les événements? C'est d'abord, il n'a jamais eu cette intimité que son père avait avec Dieu. Et entre parenthèses, personne ne dit qu'il devait l'avoir. Mais c'est quand même intéressant de voir que les seuls moments où Isaac était spirituel, c'était quand il a creusé les puits de son père et qu'il n'a pas cherché la guerre avec les Philistins. Mais dans sa famille, Isaac n'était jamais présent. Il préférait son fils à un autre. Donc sa vie a été ce qu'elle a été. Parce que je crois que son âme a été endommagée. Mais la bonne nouvelle, et c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est Dieu qui est en contrôle de tout. Et Abraham, en descendant seul, qu'est-ce qui se passe? Abraham laisse son fils à qui? Je pense qu'il laisse son fils entre la main de Dieu, entre la main du Dieu de grâce. J'ai fait ma part. Dieu m'a demandé d'obéir. Les conséquences, ce n'est pas à moi de les gérer. C'est à Dieu de les gérer. Je marche en tant que père de famille, homme de Dieu, j'espère, pasteur, je l'espère, mais les conséquences de mes choix, c'est à Dieu de les gérer. Les conséquences des bonnes décisions, évidemment. C'est à Dieu de les gérer. Et Abraham, juste, laisse le soin à Dieu. Et je pense qu'ici, on a aussi ce que Dieu va préconiser plus tard, le type de la... Je donne beaucoup d'infos, mais... de la consécration du premier-né, où le premier-né devait être remis à Dieu. Et je pense ici, c'est ce qu'Abraham a fait. A remis son fils à Dieu. Dans nos vies, dans nos amitiés, on a peut-être des gens qui ont été endommagés parce qu'ils n'ont pas bien reçu le moyen que Dieu veut utiliser pour avoir le dessus dans leur âme. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne les remet à la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en finalité, qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a pu traverser tes professionnels la grâce de Dieu? En finalité, qu'est-ce qui va prendre soin des gens qu'on aime ou des gens qui sont autour de nous? La grâce de Dieu. Et souvent, en tant que père, je pense à ça, et mes enfants vivent bien, et c'est extraordinaire ce qu'on vit à Toulouse. Mais je dis, je ne sais pas ce que Dieu peut faire. Je ne sais pas jusqu'où Dieu peut nous amener. Je dis, Seigneur, que je ne regrette pas et que je ne laisse pas non plus mon âme être endommagée parce que j'ai pris des décisions de foi qui ont peut-être fait du tort à mes enfants. Mais parce que tu veux l'exclusivité dans notre vie. C'est pour toi qu'on est là. C'est toi que nous servons. C'est toi que nous voulons connaître. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Et ensuite, voilà pour Isaac et je vais terminer avec le peuple. Je me suis perdu parce que j'ai pas mis en marche mon chronomètre, mais c'est pas grave. On va parler du peuple. Ce peuple qui reçoit cette histoire et qui la lit, et qui lit cette histoire d'Abraham. Juste, on le remet dans le contexte. C'est un peuple qui a été affaibli par 400 ans d'esclavage en Égypte. Affaibli pendant 400 ans d'esclavage. Et qui sort d'esclavage avec la promesse d'aller conquérir le pays de Canaan. Avec toute leur armée. Si on a été esclave, on est affaibli et on doit aller conquérir un pays. On n'est pas préparé pour ça. On n'a pas les armes pour ça. On n'a pas les soldats pour ça. Et ce peuple avait besoin d'une chose. Pas d'armes. Pas de technologie. Ils avaient besoin juste de savoir que Dieu est là. Et dans cette histoire, Dieu donne à ce peuple quelque chose de supplémentaire. Puisque d'abord, c'est dans Genèse chapitre 12, lorsque Dieu appelle Abraham, il lui donne une promesse. Quitte ton pays, je ferai de toi une grande nation. Ensuite, dans Genèse 15, Dieu fait alliance avec Abraham. Il a dit, va plus loin dans cette relation D'accord? C'est une alliance. Dieu s'est engagé. Et ensuite, dans Genèse 22, Dieu fait un serment. Écoutez ce que l'auteur aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 6. Dans Hébreux chapitre 6, nous lisons ceci. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est comme si moi et ma femme, on a une discussion. Ambo, c'est toi qui as pris le dernier chocolat dans le frigo. Mais non, je ne l'ai pas pris. C'est toi qui l'as pris. Non, je ne l'ai pas pris. C'est toi. Je le jure, je ne l'ai pas pris. Et ce serment met fin à tout différent. Et ici, c'est comme si Dieu, en prêtant serment, en jurant à Abraham, parce que tu as fait cela, alors je ferai de toi une grande nation, mais fin à toute incrédulité, à toute crainte, à tout doute, parce que Dieu a juré. Et quand le peuple lira ça, Dieu a fait un serment. Non seulement il nous a donné des promesses, non seulement il a fait une alliance avec Abraham, mais en plus de cela, Dieu a juré. Alors on peut avancer tranquillement. Et à la croix, c'est ce qui s'est passé. C'est le serment de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 8. Si Dieu ne nous a pas épargné son Fils, oh combien à plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est ce serment qui a été fait à la croix. Et on peut avancer en croyant que Dieu est capable de prendre soin de nous. Donc, dans cette histoire, vous savez, dans 2 Corinthiens, Paul dit, je vais conclure, dans 2 Corinthiens, Paul dit, la parole de Dieu est pour certains une odeur de vie et pour d'autres une odeur de mort. L'histoire d'Abraham a révélé la foi d'Abraham. Peut-être qu'il a rêvé, qu'il a aussi fait du tort à Isaac parce que son cœur n'était pas préparé. Mais dans tous les cas, comme il est glorieux de savoir que c'est Dieu dans sa grâce qui prend soin de nous. Et qu'importe ce qui se passe dans notre vie, vous savez, c'est ça aussi qui est extraordinaire. Qu'on soit en haut ou qu'on soit en bas, nos vies seront toujours un moyen que Dieu va utiliser pour instruire les autres. Pour dire, ne suis pas ce chemin. Ou pour dire, suis ce chemin. Mais dans tous les cas, on voit aussi qu'on soit toujours une instruction pour les autres. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais la pensée que j'aimerais qu'on garde essentiellement, et moi qui m'a touché, c'est ne laissons pas les moyens que Dieu veut utiliser pour avoir l'exclusivité dans notre vie endommager notre âme. Ne laissons jamais ces moyens endommager notre âme. Continuons de croire, continuons de marcher, même s'il faut ramper, même si vous rampez comme Jacob, rampons. Mais en sachant qu'au moins on rappe avec la bonne personne, on se traîne sur le chemin en allant vers la bonne personne. Mais combien de croyants, vous savez, ont des âmes endommagées? Alors que c'est Dieu. Oui, telle personne m'a fait ci. Non, c'est Dieu qui veut avoir l'exclusivité dans ta vie. Mes amis, c'est Dieu qui veut avoir l'exclusivité dans notre vie. Et il peut aller loin. Il peut aller loin. Mais vous savez quoi? C'est la grâce qui va loin. C'est l'amour qui va loin. C'est pas le méchant qui va loin. Donc on peut juste être tranquille et laisser ce Dieu aller loin pour avoir toute la place qu'il veut dans notre vie.